Voilà, donc si vous le voulez bien, je vais vous présenter ma communication donc sur le roman de Renard et ses avatars scolaires. Alors, je me présente quand même rapidement hein, pour que vous puissiez me situer. Donc, je pense que vous avez compris, je travaillais ici à l'Institut français de l'éducation, anciennement INRP, Institut national de la recherche pédagogique, où je suis donc en détachement, donc enseignant en détachement depuis 2006, et je suis chargée d'études et de recherche. Donc je travaille dans un labo de recherche de l'ENS, qui est un laboratoire de recherche et de création contemporaine, qui a le mérite de travailler à la fois la littérature, la musique, le théâtre, le cinéma, etc. Donc c'est un laboratoire très très large. Et je suis également chercheur invité donc dans le laboratoire de médiévistes du QERMA, dont faisaient partie certains collègues qui sont intervenus hier. Voilà. Donc autrement, donc je suis enseignante de lettres. J'ai une thèse en littérature médiévale sur le roman de Renard et les fabliaux. Voilà, c'est le propos de ma thèse. Donc, voilà. En général, je ne fais pas de communication lorsque j'organise une formation, mais là, je n'ai pas pu résister au plaisir de parler de Renard. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je peux agrandir peut-être ça. Je commence de façon tout à fait insolente en vous proposant une image très actuelle donc, du roman de Renard. C'est une bande dessinée qui est réécrit le roman de Renard sous forme de polar, et donc ça se passe dans les bas-fonds de Paris. Donc on a quelque chose de très violent, donc je reviendrai un petit peu là-dessus. Alors, le roman de Renard et ses avatars scolaires. Pardon. Voilà, donc ça marchera mieux. Je ne peux pas voir. Voilà, si ça va mieux comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu insolent quand même. Hein. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment l'esprit de Renard. Hein. Alors, le problème du roman de Renard, c'est que le texte littéraire arrive jusqu'au lecteur contemporain via de nombreux médias. La parole des jongleurs, les manuscrits des copistes, les livres des éditeurs et aujourd'hui la numérisation. C'est un long parcours pendant lequel le texte va subir des transformations, même si les médias se proposent les uns après les autres de fixer l'œuvre sous la forme d'un livre, par exemple. En fait, il n'y a pas de stabilité au Moyen-Âge. Le texte est fluide, instable, ce qui est tout à fait à l'opposé de notre conception moderne du texte hein, qui est fixé. Et cela est d'autant plus vrai pour le roman de Renard, qui est un texte en fragments, c'est un texte éclaté par essence. Le roman de Renard, en effet, n'est pas un roman. C'est un ensemble de textes écrits que l'on appelle branches, et ces textes sont écrits par des auteurs différents. Il y a une centaine d'auteurs, il n'y a pas un auteur particulier qui assume l'ensemble des branches. Alors, si on appelle roman, on l'a vu hier, c'est parce qu'ils sont écrits en langue romane par opposition à la langue latine. Voilà. Mais donc, il n'y a rien à voir avec la notion de roman telle qu'on la conçoit aujourd'hui. C'est la même chose hein, que l'histoire d'Arthur, par exemple. Alors, les différentes branches s'articulent entre elles sans qu'il y ait de chronologie stricte, même si les éditeurs ont essayé, comme pour Renard, de dire « voilà le début, voilà la suite, voilà la fin ». En fait, il y a une très grande liberté dans l'enchaînement des branches. Les textes ont été écrits, les plus anciens, sur une période de un siècle, entre 1170 et 1250. Voilà. Alors, on a des certitudes pour poser ces limites-là, dans la mesure où il y a des références concrètes dans le texte qui nous permettent de dire il parle de tel événement historique, donc on sait que cet événement est antérieur, etc. Donc, on arrive à situer ces limites-là sans qu'il y ait d'autres datations précises dans le texte. Je dirais la seule référence historique véritable dans le roman de Renat, c'est l'allusion à Nour ad-Din, c'est une allusion à la défaite d'Édesse par les croisés. Donc il y a en fait ces premières branches là sur un siècle, il y a une vingtaine d'auteurs anonymes. On n'a que trois noms, Pierre de Saint-Cloud, Richard de Lison et un prêtre de la Croix en Brie. C'est-à-dire qu'on a ces allusions-là dans le texte, mais un petit peu sur le modèle que l'on a dans la chanson de Roland, « Ainsi faute la geste que tu rôles juste des clinettes », c'est-à-dire on a dit ce texte-là, cette branche, c'est Pierre de Saint-Cloud qui l'a fait. Cette branche, c'est un prêtre de la Croix en Brie. Mais on ne sait rien de plus sur le personnage qui est derrière le nom. Voilà. Donc tous ces auteurs anonymes intègrent leur récit par rapport à ce que l'on appelle une tradition renardienne, une matière renardienne. Et en particulier, il y a de nombreux jeux intertextuels d'une branche à une autre, à tel point qu'on peut avoir des branches de romans de renard sans qu'il y ait renard. Mais il y a un autre personnage qui apparaît parce qu'on sait que ce personnage est déjà apparu dans une autre aventure avec renard. Alors, ces branches ont une autonomie entre elles, mais selon certains manuscrits, ils s'enchaînent. On a par exemple Isengrin tonsuré par renard qui précède la pêche au seau, dont je vais vous parler. Voilà. Et donc, on peut concevoir un petit peu l'écriture des branches du roman de renard à la manière des séries actuelles, séries télévisées. C'est-à-dire que le héros ne peut pas mourir et il n'y a pas de chronologie stricte. On peut, à sa guise, inventer un nouveau récit puisque les fins de chaque branche laissent une perspective ouverte sur de nouvelles aventures. Et même lorsqu'on essaie de montrer Renard mort, on a par exemple à un moment le personnage de Tibère qui dit si Renard est mort, la femme de Renard, Hermeline, pense qu'il est mort, elle va pour se remarier, et à ce moment-là, Renard réapparaît. Voilà, il dit non, je ne suis pas mort, et donc Renard est vif, c'est un vif diable, il ne peut pas mourir. Bien, donc, c'est dès la seconde moitié du XIIIe siècle, des continuateurs vont transformer la matière renardienne. C'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation au niveau de l'esprit du texte, et Renard va devenir le symbole du mal et de l'hypocrisie. Donc, il va y avoir un infléchissement moral en focalisant tous les défauts sur Renard. Alors que dans les premières branches, par exemple, on a Renard qui apparaît comme violent, mais on a aussi Isengrin qui est violent, on a Noble qui est cupide, etc. Alors qu'après, il va y avoir, je dirais, une spécialisation du mal qui va être portée par Renard. Par exemple, dans Rudebeuf écrit un Renard le bestourné, où on a véritable, enfin bestourné, c'est-à-dire tout est chamboulé, ça serait le grand chamboulement. Voilà, c'est celui qui renverse tout. Voilà. Et on a aussi la même chose avec un texte de Jacques Margiélé qui s'appelle « Renard le novel ». Alors, dès l'origine, le succès de Renard est tel que le texte va susciter de nombreuses transformations, de nombreuses adaptations. Chacun va, à sa guise, interpréter le texte et le faire aller dans le sens où il le veut. Alors, pas simplement dans le domaine de l'ancien français, enfin en France, mais on a également des adaptations en allemand. On va avoir des adaptations de certaines branches du roman de Renard. On a des adaptations néerlandaises. Et alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que un écrivain comme Goethe, par exemple, va s'inspirer non pas des branches que nous, on connaît, mais des branches néerlandaises. Et nous, on va connaître les réécritures de Goethe, et du coup on va les mesurer par rapport à nos branches françaises. Donc par moment il va y avoir une sorte d'incompréhension parce qu'on ne sait plus d'où vient le texte, et on va dire mais est-ce que c'est l'invention propre de Goethe? Mais non, Goethe a puisé dans une autre source. Donc il y a cette on a pu dire une sorte de disparition disparition du roman de Renard. Hein. Les textes disparaissent un petit peu comme des cours d'eau qui disparaissent et qui resurgissent un peu plus loin. Donc voilà, c'est ça. Alors, à propos de sources, on a bien évidemment essayé de chercher les sources du roman de Renard. Dans la mesure où on parle de branches, erreur étymologique, on va dire, où est le tronc, hein. Donc on a cherché des racines à l'arbre commun, et en particulier, on a essayé de rattacher le roman de Renard à une tradition folklorique ou populaire, en s'appuyant sur les marques d'oralité. Alors, les médiévistes hein, s'accordent pour dire qu'effectivement on peut chercher ces sources dans le folklore, mais va arriver un moment où ça va être difficile de voir ce qui se rattache proprement à Renard, le roman de Renard, c'est-à-dire Renard avec un R majuscule, vous voyez, et ce qui se rattache au renard. Voilà. Parce que bien évidemment, je dirais Renard est un renard, mais tous les renards ne s'appellent pas Renard. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on a par exemple Marie de France qui écrit des fables. Dans ses fables, elle montre bien des histoires, par exemple, entre renard et le loup. Oui, c'est le renard, le loup. Donc elle a des caractères, mais que l'on retrouve dans les bestiaires. Par exemple, le renard est rusé et le loup est fort. Mais je dirais, ça, c'est ce qu'on a de commun dans l'ensemble des bestiaires. On a déjà ça dans les fables d'Ésope, etc. Donc je dirais, il y a le côté qui va être commun à tous les renards. Et puis, il va y avoir le personnage particulier de renard. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose, hein. Voilà. Par ailleurs, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on a essayé de rattacher donc Renard à ce mouvement des fables, mais Renard n'est pas tourné vers une signification morale. C'est-à-dire que dans les fables, il y a à la fin une sorte de leçon, enfin d'une réflexion morale là-dessus. Ce qui caractérise Renard, c'est justement une amoralité foncière. Voilà. Il n'y a pas de valeur. C'est pour ça qu'il y a une sorte de paradoxe lorsque l'on voit que c'est ce roman de Renard qui est véritablement rattaché à la culture enfantine, hein, qui est l'heure actuelle. Il a beaucoup plus de succès auprès du public enfantin, disons, que du public adulte. Voilà, donc le roman de Renard n'illustre aucune valeur morale, il n'est porteur d'aucune valeur. Par contre, s'il est difficile de rattacher le roman de Renard donc dans cette tradition folklorique, rattachée aux fables, aux contes, etc., il est beaucoup plus facile de s'intéresser aux avant-textes du roman de Renard, donc qui sont des œuvres littéraires écrites. Hein. En particulier, on a une œuvre qui s'appelle Lysangrimus, donc un texte latin rédigé en 1148. Donc, ce sont des hexamètres latins. Et donc, dans cette Lysangrimus, on a déjà une intégration du schéma des fables, mais avec des personnages qui vont être caractérisés. Et donc, on peut prouver, là, les médiévistes ont prouvé, que le roman de Renard emprunte à Lysangrimus des épisodes. Voilà, donc, il y a des réécritures. Par exemple, la pêche à la queue, que l'on trouve dans le roman de Renard, c'est déjà un épisode qui est dans Lysangrimus. Donc, on peut être sûr que le roman de Renard a des avant-textes littéraires, voilà, écrites. Donc, c'est de culture savante. Ce sont des lettrés qui écrivent de telles histoires. Voilà, donc il y a, par exemple, la pêche à la queue, il y a, par exemple, Renard et Chanteclerc. On a également les noms propres, vous voyez, entre Lysangrimus et Lysangrin, c'est forcément un emprunt. Hein. Et donc, dans l'œuvre latine, on a Reynardus, et Reynardus, Renard. Voilà. On a aussi l'opposition entre Renard, qui manipule les mots, qui est le maître du langage, ça c'est dans Lysangrimus, hein, et donc Renard qui s'oppose à Lysangrin, qui représente la force physique. Alors bien évidemment, on dit dans l'ensemble des bestiaires, par exemple, et dans le bestiaire de Pastoureau, on le voit bien, le loup, c'est celui qui est fort, et Renard, c'est celui qui est rusé. Alors on dit que le renard est rusé parce qu'il feint d'être mort pour capturer ses proies. On dit également que le renard est rusé parce qu'il marche de travers. Hein, il marche de côté. Voilà, il ne marche pas droit. Voilà. Et donc il y a cette valeur-là entre surtout au Moyen Âge, hein, il y a cette valeur-là, celui qui est dans la droite voie, c'est le droit chemin, hein, et celui qui est un petit peu de côté. Voilà. Donc on a déjà ça qui est installé donc, dans Lisant Grimousse, donc dans cette œuvre latine. Donc on peut dire que certainement, Roman de Renart est d'origine lettrée, il appartient à cette culture écrite, savante, même si c'est en rédigé en langue vulgaire. Voilà. Donc la langue vulgaire, c'est la langue romane, par opposition à la langue latine, qui est la culture de référence. Hein. Voilà. Alors on a reproché aussi au roman de Renart d'être de tonalité vulgaire, mais... J'ai fait ma thèse sur les fabliaux et le roman de Renart, et je peux vous garantir que Renart est très propre par rapport aux fabliaux. Il y a très peu de gros mots. Enfin, voilà, donc dans les fabliaux, c'est quand même un degré en dessous, devrais-je dire. Voilà. Alors, bien évidemment, on peut opposer le roman de Renart à la chanson de geste, par exemple, ou au roman Courtois. Mais il y a vraiment une parenté entre les fabliaux et le roman de Renart, même si le roman de Renart a une plus grande tenue de langage. Voilà. Alors ce roman, qui n'en est pas un, devient fondateur d'une tradition littéraire qui se poursuit aujourd'hui encore. Donc moi, pour revenir à ces textes que l'on a aujourd'hui, je voudrais présenter quand même les traces matérielles de ce roman qui n'en est pas un dans les manuscrits. Alors, comme Roman de Renart n'est pas un roman, ce n'est pas un livre non plus. Donc là encore, ça s'oppose à notre conception où finalement, lorsque à l'école, par exemple, on demande aux élèves, on va travailler sur telle œuvre, quel livre, bon, voilà, ils achètent le livre. Or aujourd'hui, on ne peut pas penser le livre comme ça pour le Moyen-Âge. Voilà. Donc on s'appuie sur les traces dont on dispose et les manuscrits. Alors on constate que les manuscrits dont on dispose datent de la fin du XIIIe siècle. Fin du XIIIe siècle, ça veut dire qu'ils datent tous d'un siècle après leur première circulation orale attestée. Donc il y a déjà une distance. Alors, on dispose de 14 manuscrits plus ou moins complets. Et ces manuscrits, on les appelle de la lettre A majuscule à la lettre O majuscule, en oubliant la lettre J qui est la même que la lettre I. Donc, on a l'habitude, lorsque l'on travaille sur le roman de Renart, de dire « je travaille sur le manuscrit A » ou « je travaille sur le manuscrit O ». Je vous montrerai, par exemple, Mario Rock établit son texte à partir du manuscrit B. Bon, demain va intervenir Aurélie Barre, qui est médiéviste, qui a établi un texte, mais d'après le manuscrit O. Voilà. Alors après, les médiévistes expliquent pourquoi ils choisissent tel manuscrit plutôt que tel autre. Hein. Donc on a 14 manuscrits. Et chaque manuscrit se présente comme une anthologie de branches. Et on a donc des tableaux où on peut retrouver... On va avoir dans la liste, on peut... Par exemple, on va dire dans le manuscrit A. Pardon. Voilà. J'ai pas le manuscrit. Pardon. Le manuscrit E, on va dire on a l'anthologie suivante. Renart jongleur, Renart et Chantecler, Renart et la mésange, Renart et Tibère, etc. Ensuite, on verra que dans le manuscrit N, on aura jugement de Renart, le siège de Maupertuis, Renart teinturier, Renart jongleur, etc. Donc vous voyez comme c'est compliqué finalement parce que chaque manuscrit se présente avec un ensemble de branches. Alors il y a certaines branches qui se recoupent et d'autres qui ne se recoupent pas. Donc on n'a pas véritablement une unité sur justement cet ensemble roman de Renart. Mais on a ce qu'on appelle de la matière renardienne. Donc entre médiévistes on parle de matière renardienne. Et on travaille sur ces traces-là. Voilà, donc tous les manuscrits ne comportent pas le même nombre de branches et toutes les branches ne se retrouvent pas dans le même ordre. Hein, donc. Alors certains ont placé par exemple la branche 1 où on a la séparation entre Adam et Ève. Adam frappe l'eau et tous les animaux qui sortent sont des animaux paisibles, genre mouton, chien, etc. Et lorsque Ève frappe l'eau de son bateau, tous les animaux qui sortent sont le loup, le renard, etc. Voilà. Donc on va avoir cette rivalité Adam et Ève dans la création des animaux. Donc dans un manuscrit, on a cet épisode-là qui est le premier, qui est présenté le premier. Mais dans un autre manuscrit, la première branche qui va apparaître, ça va être le jugement de renard. Voilà. Donc c'est très différent et on n'a jamais la même chose. C'est-à-dire, quand on prend un texte, on n'a jamais la même chose. Voilà. Quelque part, il faut s'habituer à cette mouvance et à cette instabilité du texte. Bon. Donc là, j'ai parlé de ces 14 manuscrits complets, mais on a aussi des manuscrits qui sont incomplets, des petits morceaux, des petits fragments isolés. Donc là, on a l'habitude de les noter de la lettre A minuscule à la lettre T. Donc, lorsque l'on voit des lettres capitales, on sait que ce sont des manuscrits complets. Lorsque l'on voit des lettres minuscules, on sait que ce sont des fragments. Voilà. Alors après, il faut essayer de voir ce que l'on choisit de faire. Les manuscrits vont être regroupés en familles. Et on fait trois familles, hein, les familles alpha, la famille bêta et la famille gamma. Alors on classe ces manuscrits en fonction du nombre de branches qu'ils ont. Et on voit que, par exemple, certains travaillent sur la famille gamma qui présente un plus grand nombre de branches. Alors, à la Bibliothèque nationale de France, hein, il y a dans cette famille gamma ce manuscrit. Donc, après, on voit dans différentes bibliothèques où sont ces manuscrits. Voilà. Alors, si on prend, par exemple, la BNF, donc on va avoir, dans cette famille-là, 159 folios. On va avoir des textes sur deux colonnes, de 40 lignes chacun, recto, verso, etc. Et chaque unité est présentée par donc une lettre capitale. Et donc, on peut reconnaître un petit peu les fonds que l'on a. Alors, si on regarde des manuscrits, donc l'ensemble des manuscrits, j'ai dit, par exemple, si je compare le manuscrit C et le manuscrit M, eh bien, je vais avoir des branches communes. J'ai dit, tiens, ils ont 22 branches communes. Et ils ont des branches qui sont dans l'une, qui ne sont pas dans l'autre. Voilà. Donc, quand on édite un texte, le problème qui va se poser, c'est de dire, qu'est-ce que j'édite ? Est-ce que j'édite une branche, simplement ? Est-ce que j'édite l'ensemble des branches, et voilà. Alors, il y a plusieurs choix, hein, donc je vous ai montré, je vais les faire circuler si vous voulez. Il y a des textes, après, destination du public, hein, donc les établissements de textes qui sont faits. Donc vous avez par exemple ici un établissement de texte. Donc c'est Mario Rock qui a choisi de travailler à partir du manuscrit B qu'on appelle manuscrit Kangé, qui se trouve à la BNF. Et donc là, j'apporte un exemplaire, mais j'en ai une très grande longueur. Hein. Ici, c'est simplement les branches 12 à 17. Voilà, donc j'ai les branches 12 à 17 que j'ai apportées aujourd'hui parce que je vais présenter donc la pêche à la queue. Et donc, on a cette édition-là. Donc, c'est simplement des éditions qui sont en ancien français et le texte est établi d'après tel manuscrit. Donc, lorsque on a une édition de cette façon, on a une longue introduction où il va y avoir l'explication des choix de l'éditeur. Pourquoi il a pris tel manuscrit ? Qu'est-ce qu'il a fait comme intervention sur le texte, quelle ponctuation il a établie, quelle variation orthographique, dans quelle langue est le manuscrit, etc. Et puis, il y a toujours également, à la fin, des index, des explications de mots, etc. Voilà. Je fais circuler. Donc, vous voyez, il y a ce problème-là d'établissement du texte, c'est-à-dire que la personne, le médiéviste qui va travailler là-dessus pour mettre à la portée du public le roman de Renard, il doit se poser la question sur quel manuscrit et pour qui. C'est très important, parce qu'on n'écrit pas du tout de la même façon, on ne va pas faire la même chose. Voilà, on ne va pas donner la totalité, par exemple, des branches, pour un public scolaire, par exemple, parce que ça serait totalement indigeste. Voilà, peut-être que c'est trop. Voilà. On ne va pas leur donner tout ça à lire. On ne leur donne pas tout ça à lire. Voilà. Bien, donc voilà pour les différentes familles. Alors, ensuite, les principes d'édition. Donc, vous allez avoir comme règle d'établissement du texte, qu'on appelle l'établissement du texte, des gens qui vont se dire « je suis au plus près du manuscrit ». Alors, avec ce qu'on a vu dans l'atelier précédent qui est présenté par Annick Pejon, qui disait « il y a des textes, on voit des abréviations ». Voilà, il y a des abréviations. Donc, vous voyez, il y a tout ce travail de paléographie qui est à faire. Donc, on travaille avec une loupe sur les manuscrits pour bien reconnaître le texte, pour reconnaître les abréviations. Et le premier travail, c'est la transcription de texte. Donc, on va transcrire le texte. Et ensuite, eh bien, il faudra l'établir, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, choisir, changer l'orthographe, on va essayer de choisir la séparation des paragraphes, on va choisir faire une ponctuation un petit peu plus moderne, etc. La ponctuation pose énormément de problèmes. Voilà. Alors après, on verra au niveau de la langue, mais il y a ce choix-là, et c'est pour ça que chaque éditeur doit se poser là-dessus. En plus, j'ai dit en introduction que les textes étaient présentés via les copistes. Alors, les copistes, ils ont une copie, ils copient le texte, mais on n'a pas forcément, je dirais, le copiste n'a pas forcément la même langue que le texte qu'il a sous les yeux. Donc, parfois, dans certaines copies, on a des traits dialectaux, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des variations. Donc, quand on établit le texte, est-ce qu'on garde les traits dialectaux ou est-ce qu'on ne les garde pas, etc. Voilà. Et puis, il y a des moments où on est en train de s'interroger, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On ne comprend pas. Et encore actuellement, on a des passages qu'on ne comprend pas du tout, et on ne comprend même pas les mots, on n'arrive pas à les relier à un lexique, etc. Donc, il y a vraiment déjà des pertes. Donc, honnêtement, on dit, voilà, telle chose. Une seule occurrence de ça, on a pu établir au plus près la graphie de ce mot, mais on ne sait pas du tout ce qu'il veut dire. Voilà. Donc il y a ce principe-là, de dire je vais faire ça. Ensuite, il y a tout l'appareillage critique qui va être mis, tout le toilettage du texte, l'orthographe, la ponctuation, l'abréviation, la lettre X, par exemple, pour US, donc qui est la déclinaison, hein, donc le US va être remplacé par les copistes, par la lettre X. Alors, ce qui est curieux, c'est que par moment, il y a une confusion, et donc on a mis IU plus X, alors que le U, c'est déjà LS, etc. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire en orthographe. Voilà. Et ensuite, il y a la nécessité de désigner de façon claire et précise les branches dont on parle. Alors, et là, justement, on va avoir un problème. C'est-à-dire que dans certaines éditions, on va avoir branche 2 qui va correspondre à telle chose, la pêche au puits, par exemple. Dans la branche, une autre branche, une autre numérotation, on va avoir un autre titre, vous voyez. Donc, il faut avoir quelque chose de cohérent. Donc, on a ce qu'on appelle des concordanciers pour dire en tel manuscrit, voilà telle branche, voilà la numérotation et voilà les titres. Alors, on va établir là aussi au niveau des titres de façon à ce que l'on identifie très clairement le texte dont on parle. Alors, si je prends cette édition, par exemple, alors cette édition, c'est, je dirais, pour large public, hein, puisque c'est lettres gothiques. Donc, c'est une édition bilingue, puisqu'il y a le texte en ancien français d'un côté et la traduction de l'autre côté. Donc, cette édition donc, qui est éditée par les lettres gothiques a été établie par les professeurs médiévistes messieurs Fukumoto, Arano et Suzuki pour l'établissement du texte. Et le texte a été revu, présenté, traduit par Gabriel Biansotto, qui est donc un médiéviste. Voilà. Donc vous voyez, il y a tout ce travail-là qui est à faire sur une fois qu'on a le manuscrit. Alors, je dis ça s'applique à tout le monde, parce qu'on a une traduction, donc on peut lire le texte. Bon, il est un petit peu... Enfin, il n'est pas volumineux quand on voit ça. Et donc, à chaque fois, il met bien évidemment les titres. Hein. Isengrin vient se plaindre au roi. Avis divergent sur les conseillers de nobles. Brun et Tibère pris au piège, etc. Justification d'Hersan. Donc, on a les titres des branches. Et donc, on peut savoir très précisément où on se retrouve. Alors, je peux vous le faire passer. Voilà, c'est ça. C'est Lettres gothiques. Donc, c'est une collection qui... Comment ? Il y a toute une collection de lettres gothiques. Et, alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a dans la Pléiade. Il y a, donc, Aurélie Barre, que vous verrez demain, a établi un texte uniquement en ancien français, mais dans une édition extrêmement luxueuse, une édition cartonnée. Et c'est vrai que c'est quand même très cher. Voilà. Donc, après, on fait des choix. Donc, ça, c'est le premier travail, hein, de travailler là-dessus, donc désigner de façon claire et précise les branches, définir une unité. Et ensuite, le problème qui se pose, c'est la numérotation des vers, hein, parce que les branches sont de longueur variable. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on numérote chaque branche indépendamment ou est-ce qu'on fait une numérotation suivie ? Alors, là, ça va dépendre encore des éditions. Parce qu'il faut savoir bien évidemment que les branches sont écrites en vers octosyllabiques, donc à rime plate. Hein, voilà. Donc en général, on a des branches qui ont une centaine de vers et on a des branches qui sont de 3500 vers. Vous voyez, quand je dis 3500 vers, c'est pour ça qu'on fait des numérotations par branche, parce que sinon on ne s'y retrouverait pas sur l'ensemble des branches, ça ferait des numérotations un petit peu trop astronomiques. Voilà. La langue de référence dans ces textes, c'est la langue qu'on appelle l'ancien français de l'Île-de-France. Mais ça n'exclut pas les traits dialectaux, hein, lorsqu'on a un copiste picard, par exemple. Voilà. Donc, je fais circuler cette édition donc, dans les lettres gothiques pour vous montrer un petit peu hein, tout ce travail, je dirais, scientifique hein, qui est fait par des médiévistes pour nous donner un texte de très grande qualité et au niveau de l'établissement du texte médiéval, au plus proche donc, des manuscrits, et en même temps au niveau de la traduction. Hein, parce que pour avoir traduit des vers, je peux vous garantir que c'est très, très difficile. Voilà. Alors... En ce qui concerne les éditions scolaires, je pourrais dire que dès le XIXe siècle, on a des adaptations pour la jeunesse. Alors, on a déjà vu ça lundi et mardi. Le XIXe siècle a tout fait. Hein, et en particulier, ces réécritures du roman de Renard, comme des réécritures de Tristan et Iseult, comme des réécritures... Ils ont tout fait. Ils ont tout pris le Moyen-Âge. Ils ont tout réécrit, réadapté, etc. Alors, il y avait cette vogue du Moyen-Âge, mais il y a aussi cette volonté de se réapproprier le patrimoine national. Donc, on a déjà des collections donc, destinées à la jeunesse. Et à partir du moment où on va avoir ce public spécialisé, on va avoir d'autres problèmes qui vont se créer. Alors, on a bien sûr la difficulté de la langue, parce qu'il va y avoir des mots qui vont échapper, hein, on ne sait plus bien à quoi ça correspond, mais on va avoir également des problèmes, je dirais, de correction. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut montrer aux élèves ? Alors, aujourd'hui, enfin, au XXe siècle, il y avait une étude qui a été faite par Annie Renoncia, qui était directrice du musée de Rouen, et qui avait établi le fait qu'il y avait au XXe siècle, en tout cas jusqu'aux années 1980, beaucoup plus d'éditions destinées à la jeunesse que d'éditions destinées à tout public. Comme si Renard faisait partie de la culture enfantine. Voyez. Donc il y a une sorte d'appropriation par le monde des enfants. Renard, c'est le monde des enfants, hein, à tel point que parfois on présente à des adultes ou à des adolescents Renard, mais en quoi ça peut nous concerner ? Alors c'est assez curieux de voir ce renversement-là, et donc on va s'interroger là-dessus. Hein. Voilà. Alors, si on regarde les instructions officielles, on a une injonction scolaire très forte sur la littérature. Renard, le roman de Renard fait partie des ouvrages patrimoniaux recommandés pour le cycle 3. Hein, je pense que vous l'avez vu. Voilà, c'est le cycle 3. Et il y a un texte de présentation. Alors, je ne sais pas si je l'ai pris. Bon, je ne l'ai pas ici. Si je dois avoir le texte de présentation... Non, je ne l'ai pas appris. C'est pas grave. Dans, dans sur le site Eduscol, vous avez liste officielle donc des œuvres qui sont destinées à la jeunesse et vous avez un commentaire sur chacune des œuvres. Et donc, on a un commentaire sur le roman de Renard. Donc, on a cette recommandation donc, du ministère pour dire que le roman de Renard fait partie du patrimoine. Et donc, dès le cycle 3, on peut étudier le roman de Renard. Alors, curieusement, donc en dépit de cette amoralité foncière du roman de Renard et de Renard, l'œuvre qui n'existe pas en tant que telle, hein, puisqu'elle n'est accessible que par divers avatars, est devenue un classique de la littérature enfantine. Alors, je me propose d'analyser quelques avatars actuels, tout en vous disant que, par exemple, Aurélie Barre va parler donc du film de Starry Witch hein, qui est fait avec des marionnettes et donc je n'en parlerai pas hein. Mais on a plein d'avatars actuels donc sur le roman de Renard, des disques, des films, une multitude d'éditions. Alors dans la bibliothèque Rouge et Or dès 1957 on a un texte qui a été établi, mais on ne sait pas qui a établi le texte, quelles sont les branches qui ont été choisies. C'est rien n'est dit sur cet élément-là. On nous présente simplement le roman de Renard et sans nous dire exactement d'où vient le texte et comment on a ciblé. Hein, comme si, effectivement, Renard appartenait à une culture. Et on a des illustrations qui sont là, je dirais, pour fractionner le texte, un petit peu, c'est le principe de la collection Rouge et Or. Hein, de la, voilà, c'est ça. Donc, on a d'autres éléments. Je vais vous faire passer, si vous voulez bien, donc, en priorité, donc, un épisode que j'ai ciblé sur comment Renard fit pêcher à Isengrin les anguilles, hein, la pêche qu'on appelle la pêche au seau, la pêche aux anguilles, etc. Donc, je vous donne d'abord le texte de référence, donc collection Lettres gothiques, le texte établi par des médiévistes et le texte traduit par un médiéviste. Donc, je dirais que ça serait la référence scientifique. Et puis, je vais vous donner... Voilà, excusez-moi, hein, mais voilà, si vous voulez bien que chacun prend une feuille par la pour donner. Et puis, je vous fais passer... Alors, j'ai sélectionné deux éditions... qu'on dit jeunesse, pour essayer de mesurer l'écart, hein, pour mesurer le travail qui est fait. Alors, je ne vais pas poser des valeurs, ça c'est bon, ça c'est pas bon, quoique, mais je vais essayer de voir en quoi ça me pose des problèmes pour la pédagogie. Voilà. Donc, on a par exemple cette adaptation de Pierre Coran qui a été illustré par Pascal Lemaître. Vous verrez des illustrations très très simples, mais ce qui est essentiel ici c'est le travail qui a été fait sur le texte lui-même dans la mesure où c'est un écrivain qui va essayer de garder la structure versifiée de la branche. Donc c'est un pari extrêmement difficile. Excusez-moi, vous pouvez m'en donner un exemplaire parce que voilà, donc il y a plusieurs feuilles. Hein. Voilà. Alors, dans ce texte-là, vous avez, c'est juste un peu avant Noël, quand on met le bâcon en selle. Le ciel est clair et étoilé, et le vivier si fort gelé que l'on pourrait danser dessus. Reste un trou rond comme un écu, par où le bétail s'en vient boire. L'hiver à la tombée du soir. Alors, vous voyez bien qu'on a ces octosyllabes à rime plate. Alors, vous voyez aussi que si l'on veut donner un texte comme ça pour les élèves, on va avoir la question quand on met le bâcon en selle. Et là, bon, là, on va se poser la question. Là, je vous montre l'illustration dans la bibliothèque Rouge et Or. Oui, bon, ça apporte rien de plus. Mais dans cette bande dessinée, alors je ne sais pas si vous pouvez lire d'ici. Voilà, la pêche. Non, on ne peut pas lire. On a en fait à un moment cette question-là où on parle de bâcon et on dit mais c'est quoi un bâcon ? Voilà. En gros, c'est quoi un bâcon ? Donc il y a un personnage qui pose la question, c'est quoi un bâcon ? Parce que c'est la question que l'élève va poser. On ne sait pas ce que c'est un bâcon. Donc Ce que je voulais dire par là, c'est que lorsque l'on fait des adaptations pour la jeunesse, le problème qui se pose, ça va être simplifier le texte, moderniser le texte, mais on veut donner une couleur médiévale. Et pour donner une couleur médiévale, on va garder certains mots, parmi lesquels Bacon. Mais du coup, ça fait une difficulté supplémentaire pour les élèves. Hein. Donc, voilà ces éléments de difficulté. Hein. Donc, on va avoir ça. Je vous donne un autre exemple qui va être fait donc par une autre édition. Donc, je ne vais pas développer plus, je l'espère. Voilà. Si vous voulez bien, là, c'est une autre édition. Donc, vous avez ici une autre édition que je vous donne, donc du roman de Renard, donc une édition actuelle qui est faite donc chez Gallimard Jeunesse en 2002 par Delessert et Philippe Daven. Ils disent dès 9 ans. Dès 9 ans. Voilà. Et donc, par dans Gallimard Jeunesse. Alors, toujours la même branche. Cependant, la saison avance. Alors, vous voyez, cependant, la saison avance. Ça veut dire qu'on met le lien avec l'épisode précédent. Et l'épisode précédent, c'est Isengrin qui se fait tonsurer. Donc, le loup et le goupil cheminent. Vous voyez, on garde le mot, on ne va pas dire renard, mais on va garder goupil, qui fait médiéval. Renard va devant, l'autre suit. C'est aux environs de Noël où l'on met Bacon au saloir. Vous voyez, on garde le mot pour faire médiéval. Le ciel clair resplendit d'étoiles. Alors, ça serait bien d'avoir le texte en ancien français à côté, enfin, au moins le texte, le plus près du texte, voilà. Mais ensuite, un vivier, lui, si bien gelé qu'on y pourrait donner un bal. Et là où ça me gêne, cependant, ont percé la glace les villageois qui, chaque nuit, au trou, mènent leur bétail boire. Est-ce que, vous voyez, là, je pense qu'il y a un réel problème au niveau de la langue. Hein? Cependant, ont percé la glace les villageois qui mènent, les villageois qui, chaque nuit, au trou, mènent leur bétail boire. Vous voyez, il y a un bouleversement de la syntaxe. Alors, j'ai envie de dire, bien sûr qu'en ancien français, puisqu'on a encore des déclinaisons, moins qu'à sujet, qu'à régime, on peut inverser la position du sujet ou du complément par rapport au verbe, bien évidemment. Mais vous voyez, lorsque l'on fait une transcription en français moderne, j'ai envie de dire, ça, c'est pas du français moderne. C'est-à-dire qu'en français moderne, jamais je ne dis « cependant, on perçait la glace les villageois ». Et donc, je me trouve en plein paradoxe. Je suis professeur de français. Et donc, en tant que professeur de français, je leur donne accès à un patrimoine. Mais pour qu'ils aient accès au patrimoine, je traduis dans une langue, mais je veux faire médiéval. Et en fait, je ne donne ni la langue médiévale, ni la langue moderne. Et c'est du charabia. Voilà. Donc là, ça me pose vraiment un problème. Et par moments, je me dis « pourquoi tant d'efforts ?» finalement, si l'on compare par exemple au texte traduit par le médiéviste, vous voyez, est-ce que la langue est plus difficile? Est-ce que ça, c'est plus simple à lire pour les élèves ou non? Personnellement, je ne le crois pas. Enfin, voilà. Hein, donc, c'était ce problème-là que je voulais souligner. Donc, quand on va établir le texte, hein, il va y avoir ces problèmes-là. Donc, on a plein d'éditions, hein, je pourrais en montrer là si vous voulez. Et à chaque fois, donc, ce que je fais en tant qu'enseignante de français, en tant que médiéviste, je me dis, bon, bah, parmi tout ce que l'on me propose, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de prendre, sachant que dans chacune des éditions, bah, je vais pouvoir reprocher quelque chose. Hein. Alors, on peut dire, par exemple, la tentative qui a été faite de garder des vers. Vous voyez, c'est juste un peu avant Noël, quand on met le Bacon en sel, etc. On a cette versification-là. Mais, bon, est-ce que c'est ça que j'ai envie de transmettre? Voilà. Donc, il y a toutes ces questions que l'on peut se poser, et c'est assez intéressant de pouvoir les comparer pour savoir ce que l'on fait. Alors, on a d'autres éditions qui vont être plus scolarisées, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'elles vont proposer un appareillage pédagogique avec des jeux, avec du vocabulaire, etc. Mais là, je n'ai ciblé que ces éditions, je dirais, jeunesse, qui sont utilisées en classe. Hein. Mais voilà, au niveau du français. Alors après, on peut choisir. Hein. Voilà. Alors après, on va avoir aussi des choses qui vont être... curieuse. Par exemple, dans la pêche au seau, si on regarde la branche dans le texte médiéval, on va avoir Isengrin qui va avoir la queue coupée donc par un chasseur qui le poursuit. Il va avoir la queue coupée, rat du cul, point. Et en fait, dans le texte, parce que le texte en ancien français, anus, c'est anel. Anel. Donc, il dit rat de l'anus, quoi. Anel. Eh bien, la traduction, dans l'édition jeunesse, ça va être il a la queue coupée, rat de l'anneau. Et là, je me dis où est-ce ? Voilà. Donc, ces problèmes-là. Voilà. Et donc, on a ce problème-là, c'est-à-dire que. Et encore, j'ai envie de dire, renard, c'est pas vraiment grossier. C'est pas grossier par rapport aux fabliaux. Hein, dans les fabliaux, on a souvent. Il lui coupe pas les oreilles. Quand vous voyez, il coupe pas les oreilles, en fait, il lui coupe pas autre chose. Mais on a transposé. Voilà. Donc, dans renard, on a quand même ce problème-là, ces réticences. Donc, du coup, dans les textes qui sont adaptés pour la jeunesse, on a beaucoup de censure, on a beaucoup de choses qui sont coupées, et donc à force de couper, eh bien, on arrive à avoir des textes extrêmement gentils, mais je dirais presque insipides, j'ai envie de dire comme portée littéraire, voilà, d'un point de vue littéraire. Si on pense que la littérature, c'est aussi quelque chose qui percute fortement la société, et le roman de Renard est un texte extrêmement violent. Élodie avait montré lundi par rapport à, je dirais, la décadence un petit peu du pouvoir royal que l'on voyait dans Arthur. Eh bien, Renard, c'est ça. On n'a pas simplement le château, le roi, enfin la cour, le roi. On va avoir la cour de nobles, avec le lion qui va être cupide et qui est incapable de maintenir la paix dans son royaume. Et à côté de la cour de nobles, on va avoir Maupertuis de Renard. Et dans Maupertuis, donc le mauvais trou, le mauvais passage, c'est la forteresse, c'est-à-dire qu'on a la forteresse du baron rebelle en rivalité avec la cour du roi. Et on va avoir justement ces hauts barons, ces puissants seigneurs, Renard, Isengrin, qui vont s'affronter et qui vont semer le désordre. Renard, c'est ça, celui, bon, il dévore les poules, il dévore, etc., mais c'est celui qui sème la panique dans tout le royaume. Mais je dirais, il n'est pas pire que Brun, qui est aussi avide, etc. C'est ce que va dénoncer Renard. Renard, il dénonce le désir qui se cache derrière la parole de chacun. Voilà. Et si tout le monde tombe dans le piège de Renard, tout le monde tombe dans le piège de Renard parce que tout le monde est miné par le désir de prendre. Et lorsque l'on voit par exemple le messager Brun qui dit « Renard, tu as semé le désordre, tu es convoqué à la cour, tu dois te justifier, etc. » Renard va lui dire « Oui, mais attends, je veux manger un petit peu de miel avant d'aller à la cour parce qu'on sait bien qu'à la cour, on ne donne pas à manger à ceux qui ont faim. » Et là, Brun, il sort de son rôle de messager, de mandataire royal, pour dire « du miel, c'est la chose que mon ventre désire le plus au monde. » Voilà. Il dit « Où il y a du miel ?» Ça y est, il est piégé. Voilà. Et Renard fonctionne toujours comme ça. Il montre l'hypocrisie de chacun. Il montre comment chacun est miné par le désir. Et lorsque Renard doit être pendu, Hermeline vient et donne à Noble un trésor. Voilà, et Noble dit « Bon, finalement... bon, j'accepte qu'il soit pèlerin et voilà, Renard est sauvé. » Donc Renard, c'est ça aussi. Donc c'est un texte qui est extrêmement subversif. Il dénonce l'hypocrisie de chacun. Lorsqu'il se fait pèlerin, par exemple, eh bien, il dénonce le fait que les personnes partent en pèlerinage et reviennent plus pourries moralement qu'ils n'étaient partis. Donc c'est une charge subversive très forte. Et il est irrécupérable. Il est récupérable, c'est-à-dire que ce n'est pas celui qui attaque les puissants pour protéger les plus faibles. Non, il attaque tout le monde indifféremment. Voilà. Donc vous voyez, au niveau de la subversion, c'est très fort. Alors, dans les propositions que l'on a, on va avoir donc des adaptations différentes. Alors, on a par exemple là, en bande dessinée, des adaptations en bande dessinée. Alors effectivement, pour... les enfants, on dit, tiens, la bande dessinée, c'est sympathique. Voilà. Et donc, on va avoir des choses comme ça. Mais à partir du moment où on a cette adaptation, il faut essayer de voir ce que l'on obtient, en face de quel texte on va travailler. On ne peut plus du tout avoir la même langue, etc. Je ne vais pas porter de jugement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais le tout, c'est de savoir où l'on est. Moi, ce qui me gêne, ce qui me gênerait le plus, c'est qu'on fasse, de Renard une petite histoire sage pour enfants sages. En fait, c'est une histoire violente pour enfants intelligents. Voilà. Pour dire, attention, ne te laisse pas piéger par le langage, ne te laisse pas piéger par le, ne te laisse pas séduire par les discours qui sont, qui manipulent, etc. Hein, et essaie de voir tout ça. Hein, il faut penser qu'il y a ce rôle de la parole qui est extrêmement important. Et ce n'est pas pour rien que dans le roman de Renard, on va avoir énormément de scènes, de jugements, d'ambassades, discours religieux, etc. On a tous les discours du pouvoir qui sont mis en scène et qui sont dénoncés. Voilà. Alors ensuite, il y a un autre problème qui se pose, je dirais, c'est la moralité foncière du roman de Renard. Et c'est pour ça que j'ai essayé de commencer un petit peu par une réécriture actuelle. Alors, je ne dirais pas vraiment destinée à la jeunesse. Hein, voilà. Et donc, dans le polar du Renard, hein, donc, dans cette édition-là, donc édition du Square, dessin de Jean-Louis Hubert et scénario de Gérard Imbert, on a une réécriture du roman de Renard, mais je dirais dans les bas-fonds parisiens. Donc on va avoir des députés cupides, on va avoir Isengrin, c'est un loubard, Renard, c'est un brocanteur, et c'est la castagne partout. Voilà, ils se battent, ils sont en bande organisée, ils ont des connivences entre eux pour avoir l'argent, etc. Donc on a ça, et puis on a un langage très actualisé, bon, voilà, j'insiste pas parce que je suis enregistrée, mais on a un vocabulaire extrêmement violent. Mais je dirais que ça, c'est plus proche de l'esprit de Renard médiéval, voilà, que les petites branches sages. Parce que, en fait, les petites branches, même l'histoire de la pêche au seau, par exemple, l'histoire de. On a cette histoire-là où. Isengrin est affamé, il se présente devant chez. Isengrin est affamé, il se présente chez Renard. Il dit ça sent bon les anguilles. Alors l'anguille, c'est quand même symbolique au Moyen Âge. D'abord, c'est un poisson. Donc quand on jeûne, on mange du poisson. Donc normalement, on fait. On est dans la perspective chrétienne, ça veut dire de la privation, etc. Mais en même temps, l'anguille, c'est bon et ça a la forme du serpent. Donc on est en plein péché. Et dans les fabliaux, par exemple, lorsqu'il y a des scènes de séduction entre des prêtres et des bourgeoises, etc., qui trompent leur mari, on partage l'anguille. Voilà, donc c'est un petit peu de cet ordre-là. Donc, Isengrin, il sent le fumet de l'anguille, il demande à Renard qu'il ne veut pas en donner, ou il invente un mensonge pour dire « mais ce sont les moines qui ont les anguilles, ce sont les moines ». Donc, vous voyez, on a déjà cette dénonciation, forcément. Et ce qu'on reproche aux moines à l'époque, c'est effectivement d'avoir nourriture à planter, c'est-à-dire d'avoir plein de nourriture, alors que les gens ont faim. Voilà. Donc il y a ça. Et Isengrin va dire, mais comment est-ce que je pourrais avoir de la nourriture? Et Renard va lui dire, mais écoute, il faut que d'abord tu sois tonsuré. Alors pour être tonsuré, tu passes ta tête ici et il lui verse de l'eau bouillante et il est ébouillanté. Donc vous voyez, il y a une sorte de méchanceté, de cruauté dans ça. Donc il y a cette cruauté de Renard et elle fait rire. Voilà. C'est ça qui est vraiment terrible d'une certaine façon, c'est que cette cruauté de Renard nous fait rire. Voilà. Et à la suite de ça, il lui dit, les anguilles, écoute, je sais où en pêcher, et il va lui montrer où prendre des anguilles. Donc il l'emmène sur l'étang gelé, il lui dit, voilà, tu fais un trou dans la glace, je te noue le seau à la queue, tu pêches, tu attends, etc. Mais pas simplement comme ça. Renard, il sait très bien, il dit « allez, attends » et tout. Et à la fin, bien évidemment, les chasseurs viennent avec les chiens, etc. Et Isengrin repart la peau percée, trouée. Hein, il y a des tas d'articles qui ont été faits là-dessus sur les, lors des colloques où on a la peau qui est, oui, la peau qui est chèrement vendue. Mais, et il laisse sa queue en gage, d'ailleurs. Hein, et Renard, il rit. Il rit de voir Renard ainsi abîmé. Donc il y a le rire de Renard, mais je dirais qu'il y a le rire du lecteur. On rit de cette souffrance infligée à l'autre. Il n'y avait qu'à pas être si bête, quoi. Voilà. Donc c'est tout à fait amoral. Donc ça, c'est très, très difficile, parce qu'effectivement, en tant qu'enseignant, on se pose des questions là-dessus. Donc quelle branche donner à lire? Et c'est pour ça que même dans l'épisode, vous voyez, par exemple, on donne des branches comme ça, puis on essaie en fait de gommer ce sadisme de Renard. Voilà. Le dernier colloque où il y a eu la société des renardiens qui était là, on a vraiment parlé de Renard pervers, mais Renard pervers qui nous fait rire. On aime le pervers. Voilà. Et ça, c'est un petit peu terrible si on dit que Renard, effectivement, est à destination des jeunes. Voilà. Alors, si j'ai montré la dernière image voilà, ici, c'est que dans la querelle des barons, oui, c'est Élodie qui disait encore la dernière fois qu'entre... en gros, la situation caractéristique, et Michel Luynes disait la même chose, on a deux chevaliers et une femme, quoi, la princesse. Voilà. Bon, et ici, on a ça, sauf que Renard viole Hersan. Dans certaines branches, ce n'est pas clair. Est-ce qu'il y a viol ou est-ce qu'il n'y a pas viol? Dans cette réécriture-là, on voit très bien que Hersan, donc la femme du loup, elle est présentée plus ou moins comme une prostituée. Et en fait, Hersan, c'est le nom d'une prostituée dans les fabliaux. Vous voyez, il y a une tradition littéraire qui fait que quand on s'appelle Richeux ou Hersan, on est prostituée. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, en fait, dans certaines branches, on voit bien que, en fait, elle accepte plus ou moins. Enfin, voilà. Il y a le seul épisode où il y a véritablement viol. On voit, et c'est très drôle, parce qu'on voit la louve qui essaie de poursuivre Renard. Elle s'engouffre dans un trou, mais comme elle est trop grosse, elle est coincée. Et donc, il y a juste le derrière qui sort. Et donc, Renard la prend par derrière. Mais là, pour le Moyen-Âge, c'est très violent, parce que Renard est accusé de sodomie, etc. Vous voyez, tout ça, c'est toute cette violence-là. Alors après, Renard va se plaindre, Isengrin va se plaindre au roi. Le roi, il dit, mais enfin, si on devait faire un jugement à chaque fois, mais c'est le lot de tous les hommes d'être cocu. C'est ce qui est dit dans le texte. Voilà. Et puis, alors, est-ce que... Et oui, il dit, mais on ne peut pas reprocher à Renard d'aimer Hersan. Puis Hersan va dire, mais oui, mais c'est mon mari qui est vraiment un vieux jaloux. Voilà. Donc, vous voyez, même cette histoire de viol, on en rit, et c'est vraiment très drôle. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit au niveau du texte de Roman de Renard que cette sexualité, là, elle contamine tous les lieux. On va parler de Maupertuis, vous voyez, c'est le mauvais trou, le mauvais passage. On va parler de toutes les ouvertures, le Val, etc. On a à chaque fois une sexualisation des lieux qui est là, et c'est dans l'écriture même du texte où on est... je dirais dans le rire devant ce détournement du texte. Voilà. Et effectivement, quand on traduit et quand on adapte, bien, d'une certaine façon, on gomme toute cette sexualisation du texte. Voilà. Dans le roman de Renard, dans les textes pour la jeunesse, on ne voit pas vraiment cette sexualité qui est présente. En Renard, c'est vraiment ça. Et il ne le fait pas pour le plaisir. Hein. J'en dirais, ça, c'est pas pour le plaisir. C'est simplement... Parce que, enfin, comme on peut le voir ici, dans la scène, Renard viole Hersan, enfin, voilà, il fait son plaisir tout le temps qu'il veut, et Isengrin voit la scène. Isengrin voit la scène. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et Renard dit, bah, tu vois, j'aide ta femme à sortir du trou, je tire. Il dit, mais non, tu pousses. Et donc, il y a ce jeu-là. Et les barons disent, comment Isengrin, tu veux te plaindre de ça, mais... Comment est-ce que Renard a pu violer ta femme si tu étais là? Vous voyez, il y a une impossibilité. Et du coup, Isengrin, il est complètement perturbé. Vous voyez, c'est-à-dire que Renard a le don d'inverser les signes de ce que l'on voit, de toute l'apparence. Et donc, les gens ne savent plus où ils en sont. Et donc, ils agissent comme des idiots. Voilà. Et donc, on a toute cette force-là qui est dans le roman de Renard. Donc, c'est difficile de retrouver, de la mettre à la portée des enfants. Voilà. On a bien évidemment une satire sociale, une satire politique. Et voilà. Je dirais que, Renard, est, au niveau du langage, par exemple, hein, quand on dit il dénonce le langage, etc., ça serait un petit peu comme le pirate informatique aujourd'hui, vous voyez, le hacker. Le hacker, il a plein de compétences, mais il peut. Voilà, quel est son rôle ? Dynamité pour montrer en fait les failles du système, donc ça peut être très bien, sauf que s'il a cœur, il peut aussi le détourner pour le mal. Bon, ben, Renard, c'est celui qui a choisi le mal. Voilà. Alors, on peut faire des toutes les réécritures du texte, donc je ne vais pas montrer ça, mais dans la plupart des adaptations, effectivement, on va avoir alors des écritures du genre il ne veut plus rester Ileuc. Il ne veut plus rester Ileuc. Oui, moi, je ne sais même pas lire ça, ni en français. Ni... Oui, c'est pas du français moderne. On a l'eau du Pertuis commence à prendre. Bon, le mot Pertuis fait médiéval, mais assez avant de poissons pris. Oui, au niveau de la syntaxe. Voilà. Il répond apertement. La nuit trépasse. Alors, là, c'est plus grave, vous voyez, parce que trépasser, peut-être que les enfants connaissent, mais la nuit trépasse, en ancien français, c'est pas la même chose que trépasser aujourd'hui, même si c'est un emploi métaphorique, etc. Voilà. Donc, un tertre couvre ses derrières. On comprend pas du tout. Et en fait, il est caché derrière un monticule. Donc, tous ces problèmes-là qu'on peut avoir. Et donc, je vous invite effectivement à comparer, par exemple, sur un épisode, là, en donnant les textes que je vous ai donnés. Donc, la pêche au seau dans l'édition savante, hein, en quelque sorte. Et puis, les adaptations que l'on peut faire. Puis après, ben, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez faire. Prendre le texte. Vous voyez ce qui est à la hauteur des élèves. Alors, ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'à partir du roman de Renard, j'ai fait ces erreurs-là aussi, hein, bien sûr, j'ai suivi un projet, il y a quelques années déjà, de réécriture du branche du roman de Renard, parce que ça, c'est sympathique, effectivement, puisque Renard, finalement, c'est de la matière renardienne qui est malléable, on peut inventer, réactualiser, mettre dans n'importe quel contexte. Enfin, voilà, tout dépend après, si vous voulez en faire du médiéval ou pas du médiéval. Donc là, c'est dans une circonscription de Rouen, ils ont voulu faire du médiéval, donc c'était dans le cadre d'un patrimoine, et donc le projet, c'était de réécriture des branches de Renard, et moi, j'étais la dame du Moyen-Âge qui allait dans la classe. Donc, on me demandait où j'avais garé mon cheval. Alors, je vais vous faire regarder peut-être, mais voilà, c'est précieux, hein, c'est mon unique exemplaire. Voilà, donc... C'est un travail qui est fait. Donc là, les enfants aiment bien réécrire le texte. Alors effectivement, il y a tout le travail après. Bon, ils n'ont pas écrit entièrement le texte. On a trouvé une police de caractère après pour faire le texte. Ils ont fait simplement les enluminures. Ils ont fait les illustrations du texte. Mais il y a eu tout le travail d'approche que Annick a voulu montrer donc dans l'atelier sur découverte de la paléographie, travail sur l'orthographe. Ça, par exemple, pour les enfants de CE2, c'était intéressant de voir qu'effectivement... il voit dans les manuscrits, par exemple, le mot femme, F-A-M-E. Et je dis, oui, on trouve F-A-M-E comme on peut trouver F-E-2-M-E. Tout dépend de la conception que l'on a de l'orthographe. Le copiste dit, soit j'écris ce que j'entends, F-A-M-E, soit j'écris ce que je sais, femme vient de fémina, donc j'écris F-E-2-M-E. Voilà, je raconte l'histoire dans mon orthographe. Et avec les enfants, c'était... Ah, mais alors, c'est pas bête quand on écrit femme, F-A-M-E. Non, c'est pas bête, vous voyez, c'est cette question de valeur. C'est une question d'arbitraire. Et Michel Duyne l'a expliqué ça aussi lundi dernier. C'est-à-dire qu'il y a à un moment une notion d'ordre, de contrainte, de règle. Voilà, ça, c'est comme ça. Hein. Et on le voit au niveau du fonctionnement du texte. Voilà, donc c'est des propositions de réécriture. En tout cas, le Moyen-Âge passionne les enfants. Le roman de Renard... passionne et les enfants de primaire et les enfants de collège. Bon, j'avoue que je n'ai pas fait en lycée, hein, je fais Tristan et Iseu en lycée, et donc on peut travailler sur tous ces éléments. Alors, en conclusion, on peut voir dans ces dernières années une réactivation de Renard, je dirais, dans tous les genres. Donc on a eu le polar, c'est de Cap et de Croc. C'est curieux, vous voyez, parce qu'il y a une sorte de contamination entre Renard et les mousquetaires. Voilà. Et c'est dans une BD, aventure, fantasy, science-fiction. Voilà. Donc on a des choses comme ça. Il y a quand même une quarantaine d'épisodes. Je vous fais passer. Et donc on a une une réactivation très forte de la variance du texte médiéval, comme si Renard permettait une très grande liberté d'écriture donc à tous les créateurs. Voilà, donc je vous invite à les découvrir et à en créer d'autres donc avec les élèves. Merci. Si vous voulez poser des questions.